foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Driss Boulakri. Bonsoir, bonjour. Vous venez du Maroc, mais en fait, vous venez aussi hier et tous ces jours de Ankalka parce que vous êtes un enfant d'Azrou au Maroc et vous avez été élève du monastère bénédictin de Toumnilin. Les trois journées que nous avons passées ensemble au monastère d'Ankalkat, c'était pour rappeler le souvenir de Toumnilin, une décennie d'exception, comme nous l'avons rappelé tous ces jours-ci. Et vous avez été un élève de ce monastère, mais il a été fermé il y a quelque temps. Nous allons vous allez rappeler, en fait, le thème de notre session, c'est l'hospitalité. Et puis, votre parcours qui est original, qui est formidable. Vous avez eu froid, vous avez eu faim, vous étiez dans la campagne, et puis ensuite, vous avez dû déménager plusieurs fois avec votre frère, c'est ça?
Oui, bien sûr. Bonsoir, bonsoir Benoît. Ben, effectivement, comme vous venez de le rappeler, je viens juste de faire mon retour de l'abbaye d'Ankalkat, aujourd'hui même. Ça fait à peine une heure que j'arrive, et comme j'étais sollicité par votre radio pour continuer mon témoignage,
merci.
Voilà, je me suis présenté dans le cadre de ce témoignage concernant l'hospitalité dans Toumnilin, une abbaye de moines bénédictins qui a existé dans un village qui s'appelle Azrou au Moyen Atlas au Maroc, avait donné le meilleur exemple et qui a duré une vingtaine d'années, de 1952 jusqu'à 1968. Elle avait fermé ses portes parce que les moines sont partis ailleurs, notamment en Afrique. Et depuis sa fermeture, elle était un petit peu tombée dans l'oubli, mais on voit que ces dernières années, il y a un intérêt tout à fait certain pour cette abbaye, mais ce n'est pas pour l'abbaye en elle-même, mais c'est parce qu'il y a comme une sorte de jaillissement, de volonté de toutes les parties qui ont des convictions religieuses différentes à vouloir dialoguer. Et donc je suis là comme témoin de quelqu'un qui a fréquenté l'abbaye de Toumnilin alors que j'avais 10 ans, donc j'ai bénéficié de leurs œuvres, mais je suis là en tant que musulman pour d'abord remercier un peu l'œuvre de ces moines, mais aussi pour pouvoir participer à ma façon, par ce beau souvenir, au dialogue des religions.
C'est dans ce sens où l'évêque de Rabat avait demandé aux moines d'Ankalkat d'envoyer une vingtaine d'entre eux pour la création de ce monastère, et ensuite ils ont fait toute une série d'institutions très très minimes. C'était pas pour convertir, n'est-ce pas? Il y avait une bibliothèque, il y avait un centre de soins, et nous parlerons plus tard des rencontres internationales qui ont rayonné dans le monde entier avec toute une série de personnes très célèbres qui sont venues pour ces échanges dont vous nous parlez, ces échanges de la fraternité et de la réflexion sur le mystère, sur la prière.
Benoît, il va falloir que j'apporte quelques précisions historiques. Dans un premier temps, l'abbaye d'Ankalkat a envoyé des moines pour essaimer en Afrique, et notamment en Afrique du Nord, mais ça mérite une petite clarification historique. Ils sont arrivés en 1952. La préparation du départ des 20 moines d'Ankalkat a débuté un peu avant, vers la fin des années 40, mais il faut savoir que leur envoi en Afrique correspondait dans un premier temps à une demande de la population catholique du Maroc. Il ne faut pas oublier que le Maroc était sous protectorat français. Et donc, il y avait un pourcentage très important de la population qui était de confession, on va dire, chrétienne.
Il ne faut pas avoir peur de dire que ce sont des colons.
Normalement, le Maroc, il était sous le régime du protectorat. Donc, si on dit colon, normalement, ce n'est pas tout à fait conforme, on va dire, aux accords internationaux. Mais c'était vécu comme tel. Mais c'était quand même un protectorat qui devait normalement simplement protéger le Maroc. Alors, cette demande de la population chrétienne, justement par l'évêque de Rabat, a suscité cet envoi. Pourquoi ? Parce qu'il faut rappeler certains faits historiques qui avaient un petit peu éloigné la population marocaine de confession musulmane, on va dire, des moines venant de métropole. Et pour cela, il faut juste faire un petit retour en arrière de presque une trentaine d'années, c'est-à-dire entre 1920 et 1930, où il y avait la politique berbère de la France, à savoir qu'il voulait soustraire les berbères à la législation coranique, et il avait développé leurs coutumes, qu'on appelle izerf ou l'orf, et cette politique avait abouti en 1930 au Maroc à la création d'un daïr berbère. Mais le problème, c'est que cet événement ne s'est pas limité au Maroc. C'est qu'en Algérie, il y avait aussi un congrès eucharistique c'était plutôt en Tunisie qu'il y avait un congrès eucharistique qui avait donné lieu à une célébration en grande pompe, et il y avait des enfants catholiques qui sillonnaient les rues de Tunis avec les mêmes tenues qu'avaient les croisés à l'époque. Du coup, ça a été pris par la population comme étant une victoire de la croix sur le croissant. Et en même temps, comme il n'y a jamais deux choses sans la troisième, en Algérie, 1930, souvenez-vous, la France est arrivée en Algérie à la fin de... Enfin, les Orléanistes en 1830. Et 1930, ça faisait le centenaire de la présence française en Algérie. Et donc, elle avait organisé des festivités importantes pour célébrer ce centenaire. Et donc, la population maghrébine, qu'elle soit sous protectorat en Tunisie ou au Maroc, ou, j'allais dire, comme département français, comme l'Algérie, ont très mal vécu ces événements. Et c'est ça, en définitive, c'était une erreur historique, parce qu'à partir de ce moment-là, il y avait comme une espèce de naissance du nationalisme. Il a fallu attendre au Maroc une vingtaine d'années, jusqu'à 1950, pour que l'Église commence à changer d'orientation. Et à ce moment-là, les moines bénédictins qui sont arrivés au Maroc, sous les conseils du père Périguer, qui était à El Kaba, pas loin de Kenifra, qui les a conseillés, avec en plus une insistance de l'évêque de Rabat, le recommandant
Amédée Lefebvre.
Amédée Lefebvre, qui leur a recommandé de ne pas se mêler de la conversion du prosélytisme. Et il faut dire aussi que les moines eux-mêmes, c'était des gens très instruits, très raffinés, et c'était tous quasiment des intellectuels. Ils étaient au fait de la marche du monde, donc il était plus facile pour eux d'avoir un peu, sinon les coudées franches, du moins une certaine marge de manœuvre pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Et il y a justement quelques reportages où les survivants disaient bien qu'ils avaient une vingtaine d'années d'avance par rapport au Concile Vatican II.
Je peux que, merci pour ce rappel, je peux que faire un peu de publicité pour le film qu'a réalisé Habib Samarkandi, que nous avons reçu deux fois ici, avec Hamid Derouiche, qui s'appelle « Les cloches de Doumlilin », que l'on peut voir, que l'on peut revoir avec le lien. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous nous remettiez dans cette ambiance de la culture berbère, parce que vous nous faites un cadeau en nous apportant une musique amazique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une musique berbère.
Amazir.
Merci. Que Christophe va nous faire écouter.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Idriss Boulakrif, vous êtes enfant d'Azrou, au Maroc, et vous avez été élève du monastère bénédictin de Toumlilin. Vous nous disiez, lors de votre témoignage à Ankalkat, il n'y a pas très longtemps, que vous avez eu deux dates de naissance, un patronyme et une vie complexe. C'est important, le langage. Et vous parlez de multiples langues. Je n'ai pas dit que vous aviez réussi une vie professionnelle formidable, puisque vous vivez à Paris avec des responsabilités importantes. Mais revenons à votre enfance et à cette musique berbère, s'il vous plaît.
Je voudrais juste dire que le regain d'intérêt de Toumlilin, comme vous l'avez dit, a suscité des productions cinématographiques, notamment les cloches de Toumlilin dont vous aviez parlé et dans lesquelles je devais figurer, mais pour certaines circonstances, les choses ne se sont pas faites. Et puis surtout, pourquoi je rappelle un peu le côté cinématographique, c'est surtout pour dire que c'est à Toumlilin que le réalisateur de « Des hommes et des dieux » qui porté sur l'expérience des moines de Tibhirin en Algérie qui ont été décapités, et ce tournage a eu lieu à l'emplacement même de l'abbaye de Toumlilin au Maroc. Et même les deux moines qui ont échappé au massacre en Algérie ont fini par rejoindre Notre-Dame de Midelt au Maroc, où ils ont fini leur vie. Ça, d'un côté. De l'autre, Toumlilin, il faut savoir que j'étais enfant à l'époque, j'avais 7, 8, 9 ans. Et à Toumlilin, on a pu trouver de l'aide alimentaire parce que les conditions étaient difficiles pour nous. Mais surtout, au-delà, on a pu trouver des soins parce qu'ils avaient un dispensaire et on a pu, en tant qu'enfant, trouver une ouverture sur notre époque à travers une très grande bibliothèque qu'ils avaient, à travers des jeux qui sont très formateurs pour un enfant de 7-8 ans et à travers même d'un ciné-club où ils nous emmenaient quelques films. Et c'est par exemple celui qui m'est resté toujours en tête, notamment « Le train sifflera trois fois ». Et c'est comme, mais ça, parce qu'ils avaient un côté éducatif, mais les moines ont beaucoup aidé par la médiation médicale tous les nomades qui peuplaient un petit peu tous les environs d'Azrou, qui étaient notamment à Bri, qui étaient à Kherzouza, qui étaient à Almou, qui était à Tigrigra et qui était à Lazarar, et je peux comme ça citer, et vous imaginez que toutes ces contrées, c'est-à-dire qu'on était, c'était des transhumants, l'été, ils remontaient à la montagne parce qu'il y avait de la verdure pour les moutons, et puis l'hiver, Tumlilin, qui veut dire effectivement des montagnes qui sont enneigées, donc elles sont définies par leur couleur blanche, ils redescendaient, mais les conditions étaient quand même difficiles, que ce soit en hiver ou que ce soit en été, parce que tout était rudimentaire.
Les conditions étaient également politiquement très compliquées. Je voudrais que vous rappeliez le geste des moines que l'on appelle la tasse de thé au moment où il y a eu des troubles importants.
C'est même pas une tasse, c'est un petit verre de thé, parce qu'on n'avait pas de tasse.
Oui.
On avait du thé dans des verres qui étaient tellement petits qu'on appelait Kas Hayati, c'est de traduction le verre de ma vie. Je suppose, j'étais petit, que c'était un petit peu le logo. Cet épisode du thé s'est cité dans toutes les productions livresques, cinématographiques, etc., concernant les moines. Alors, en quoi ça consiste? C'est que tout simplement, le Maroc était indépendant en 1956, mais auparavant, c'est-à-dire à partir de 1950, 51, 52, donc au moment où le monastère avait ouvert ses portes, il y avait de la résistance. Et en définitive, ce qui s'est passé, c'est que la France avait mené une politique de répression assez dure. Elle avait arrêté les futurs responsables des partis politiques, puisqu'il n'y avait pas encore de partis politiques, sauf peut-être, il y avait le mouvement national. Il y avait l'armée de libération. Elle avait arrêté un peu quelques membres éminents. Et pour les punir, on les a conduits à côté du monastère de Tumlilin, où il y avait une grande source qui existe encore de nos jours. Et ils devaient participer au creusement des rigoles pour enterrer les canalisations qui vont canaliser cette eau potable jusqu'au village d'Azrou. Donc c'était des conditions pénibles. Seulement à ce moment-là, il y avait le moine portier qui les avait vus, et puis au passage, ils lui ont demandé un verre d'eau. Et lui, ce moine porteur, avait connu les mêmes conditions parce qu'il était arrêté lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quand il est allé voir le Don Denis Martin, qui était le prieur de l'abbaye de Tumlilin, il lui a ordonné de leur préparer carrément du thé et de l'emmener, mais à une condition, c'est de le servir à la fois pour les prisonniers, mais aussi pour leurs geôliers. Et puis, la nouvelle s'est répandue un peu partout. Elle est arrivée jusqu'en prison, chez les prisonniers, pour dire, vous savez, ces moines-là de Tumlilin, ils nous ont donné du thé, tout ça. Et puis c'est même allé jusqu'à certains membres éminents qui, une fois qu'ils ont recouvert l'indépendance du Maroc, ils sont revenus revoir les moines pour les remercier pour ce verre de thé et leur dire que n'ayez aucune crainte, vous faites partie des nôtres. Mais cet épisode en soi, ce n'est pas le verre de thé, c'est simplement, il faut comprendre un peu la caractéristique de l'hospitalité au Maroc qui revêt un caractère tout à fait particulier.
Je voudrais que nous évoquions aussi les rencontres internationales, parce qu'entre 1956 et 1966, et c'est François Martinet qui a écrit un gros livre à partir des archives, il y a eu toute une série de rencontres internationales de très haut niveau, avec des cours, des séminaires internationaux, et on pourrait évoquer les figures de Massignon, de Germaine Tillon, Emmanuel Pisani, le frère dominicain, nous a évoqué cela ces derniers jours. Vous avez été aussi profondément marqué par les conférences qui ont eu lieu en Calcutta, et entre autres le souvenir du père Gilbert que vous avez connu.
Pour ces conférences, je dois avouer qu'il y avait une conjonction de plusieurs éléments. La première, c'est que d'abord les moines, ils se sont conformés à, disons, au principe énoncé par Saint Benoît, à savoir qu'ils devaient à la fois s'adonner à un travail manuel, mais aussi un travail intellectuel en plus de l'hospitalité. Donc ils se sont conformés à cela. Le deuxième élément, c'est que, comme j'ai dit au début, les moines, c'était des gens raffinés, lettrés, et le prieur Don Denis Martin appartenait à une famille aristocratique de La Rochelle. Le père Gilbert était professeur de mathématiques, je peux citer d'autres. Le père Bernard Poupart était professeur de philosophie au lycée, etc. Il y avait des architectes, il y avait des médecins. Donc c'était des gens d'une certaine culture à l'époque. Et ce qui a fait qu'il n'y avait pas d'activité proprement intellectuelle. Il ne faut pas oublier qu'il y avait le lycée, le collège berbère à Azrou, et donc ça a suscité un foyer d'activité intellectuelle qui s'est élargi non seulement à l'échelon national, mais international, eu égard aux dons du prieur Don Denis Martin. Et donc l'idée est venue, avec les conseils de certains éminents orientalistes, Emmanuel Lévinas, Massignon, Louis Gardet, etc. Cette idée-là s'est élargie au point où ils ont décidé que chaque année, ils organisaient une sorte de rencontre internationale qui pouvait regrouper un peu tout le monde, à la fois des profanes, des religieux, des universitaires.
Alors ces rencontres ont été arrêtées pour des raisons politiques et autres, mais il y a le souvenir de Toumlilin, et il y a, que ce soit avec l'Institut catholique de Paris, l'ISTR et d'autres à Toulouse également, le désir de faire revivre, en tout cas de continuer ce travail. Et je crois que en conclusion de notre échange, qui pourrait durer des heures, nous pourrions dialoguer sur ce petit poème qui demande à chacun d'avoir une âme humble et pour que s'efface en tous, en nous, que s'efface tout esprit de hautaine supériorité. Mmh. On peut demander que nos rapports...
Et que nos rapports soient toujours de fraternelle simplicité. Rends-nous assoiffés de justice et d'esprit de pauvreté pour que nous aimions et respections les pauvres. Élargis nos cœurs dans un amour avide de comprendre et de servir tout homme. Fais-nous porteurs de joie, de paix et d'amitié pour qu'à travers la clarté de nos vies, transparaisse.
Une mystérieuse appel vers l'au-delà.
Une mystérieuse bonté, etc. Oui, voilà. Donc, mais ça, c'est à la limite, je ne connais pas l'origine de ce poème, mais ça peut être lu par quelqu'un de conviction musulmane comme moi, ça peut être lu par d'autres personnes avec d'autres convictions, parce qu'en définitive, c'est un poème dans lequel peut se retrouver l'humain, tout simplement.
Le mystère et la mystique, c'est cette ouverture vers cet au-delà que vous nous apportez aujourd'hui avec votre témoignage. Merci beaucoup, Driss. C'est bien ce témoignage de cette radio. Ma foi, j'y crois. Une foi profonde dans l'homme et surtout dans la fraternité qui passe par l'esprit d'hospitalité.
Merci. Eh bien, c'est effectivement, on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative parce que ça permet de construire des ponts entre les humains au-delà de leurs convictions religieuses. Et je pense que l'avenir appartient plus à ce genre de démarche et qu'il faut s'inscrire pleinement dans un dialogue islamo-chrétien.
Merci, Driss. Merci à Christophe.